pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Pour ou contre les spectacles de dauphins. Un texte de Caroline Bouffard paru le 17 novembre 2025 dans les As de l'info. As-tu déjà vu un spectacle de dauphins lors d'un voyage dans le sud? C'est très impressionnant. Ce sont de véritables acrobates. En plus, ils sont vraiment futés. Par contre, les épaulards, les bélugas et les phoques qui font des pirouettes pour les humains n'ont pas choisi de le faire. Il y a de plus en plus de gens qui croient qu'on devrait libérer ces animaux et ne plus offrir ce genre de spectacle. Au Canada, une loi les interdit depuis 2019. Tu en penses quoi, toi? Es-tu pour ou contre les spectacles de mammifères marins? Les pour, c'est beau. C'est une forme d'art, comme le cirque. Ça nous fait vivre plein d'émotions, surprises, émerveillement, bonheur. Les numéros sont le résultat de beaucoup de travail et de talent. C'est une belle démonstration de la relation humain-animal. C'est même émouvant, parfois. Quand j'avais ton âge, il y avait des spectacles d'otaries à l'Aquarium de Québec. J'adorais ça. Ça aide à la recherche et à l'éducation. Les mammifères marins des parcs aquatiques sont en contact tous les jours avec une équipe de spécialistes. Elles les soignent, les nourrissent, les entraînent. Grâce aux observations de ces équipes, on en sait plus sur le comportement de ces animaux. Et pour le public, ces spectacles sont une occasion d'apprendre à mieux les connaître. C'est un refuge pour certains animaux. Certains de ces mammifères étaient malades ou blessés avant d'être accueillis par les parcs aquatiques. Parfois, leur condition ne permet pas de les remettre en liberté. L'aquarium devient leur deuxième maison. L'aquarium de Clearwater, en Floride, a adopté 4 dauphins blessés qui font maintenant des spectacles et des tours devant de petits groupes. Les contre. C'est cruel. Ces animaux sont enfermés. Certains ont été capturés et séparés de leur famille. Ils se retrouvent dans des petits bassins alors qu'ils nageaient dans l'océan. Certains, comme les dauphins, sont très intelligents. Leur captivité et les nombreux spectacles devant une foule qui crie et applaudit, ça leur fait vivre beaucoup d'anxiété et de stress. Ça nuit à leur santé. Les animaux ne sont pas toujours bien traités. Au célèbre parc Marineland en Ontario, des animaux sont même décédés et il y a eu des enquêtes. C'est une des raisons qui a poussé le gouvernement canadien à interdire ces spectacles. En plus, comme les animaux ne chassent plus pour se nourrir, ils perdent leurs réflexes. Ils seraient incapables de survivre par eux-mêmes s'ils étaient remis en liberté. C'est ce qui arrive avec les bélugas de Marineland pour lesquels on doit trouver un nouveau refuge. Ça envoie un mauvais message. Les animaux ne doivent pas être capturés pour divertir les humains. Ce ne sont pas des objets. Les humains n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec d'autres êtres vivants. Stop à ces spectacles! Toi, es-tu pour ou contre les spectacles de mammifères marins? Quelle place donner à l'IA dans la santé? Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 17 novembre 2025 dans les As de l'info. Cet article fait partie de notre nouvelle série « IA, tu pensais ?» dans laquelle on t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle technologie. Évolution, force, limite, impact, pour que tu puisses réfléchir sur sa place dans la société. Connais-tu le personnage Baymax, le robot humanoïde? Il joue dans un film, Les Nouveaux Héros, qui a pour mission de prendre soin de la santé des humains. Un monde où l'intelligence artificielle est au service des humains et de leur santé. Est-ce possible? Voyons ça ensemble. L'IA en santé, un intervenant aidant? Trouver des diagnostics, personnaliser des traitements, avancer la recherche médicale, améliorer la gestion des hôpitaux. Les avancées technologiques en intelligence artificielle sont un énorme atout pour améliorer les services de santé et la découverte de nouveaux médicaments et traitements. Voici quelques exemples. Rapide comme l'IA. En ce moment, l'IA est parfois utilisée en radiologie pour aider à accélérer et améliorer les diagnostics. En effet, certains logiciels utilisant l'IA analysent les images de radiographie pour repérer celles qui sont normales. Comme ça, les radiologues peuvent d'abord se concentrer sur celles où quelque chose cloche. L'IA peut également attirer l'attention d'un médecin sur une tumeur difficilement visible à l'œil nu. Résultat, un diagnostic peut être posé plus rapidement par le médecin. Un filet de sécurité en plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir plus de difficultés à te concentrer parce que tu es fatigué? Eh bien, ça peut arriver au médecin aussi. Éventuellement, l'IA pourrait être utilisée comme deuxième regard pour éviter les erreurs ou les oublis. Prioriser les interactions humaines. Les médecins doivent gérer beaucoup de paperasse, comme remplir des formulaires et prendre des notes durant leurs consultations. Grâce à l'intelligence artificielle, une partie de ces tâches pourrait devenir automatique, ce qui leur ferait gagner beaucoup de temps. Par exemple, la prochaine fois que tu iras chez le médecin, c'est peut-être un ordinateur qui écrira les notes pendant que le docteur discute avec toi. Tout ça grâce à l'IA. Cela permet aux médecins de se concentrer davantage sur leurs patients et de gagner beaucoup de temps. Des diagnostics très personnalisés. Comme tu le sais, l'IA est capable d'emmagasiner une montagne de données. Dans le domaine de la santé, la création de logiciels utilisant l'IA pourrait offrir un portrait plus complet de chaque patient, de ses problèmes de santé et de ses habitudes de vie, par exemple. Les médecins pourraient donc proposer des traitements encore plus personnalisés. Tu t'en doutes peut-être, tous ces possibles avantages viennent également avec leur lot d'inquiétudes. Partager des données très personnel. La confidentialité est l'un des plus grands enjeux. Qui a accès à la montagne de données récoltées par l'IA? Comment et où seront-elles stockées? Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il est très important de mettre en place des règles claires pour protéger la vie privée des patients. Mauvais apprentissage égale mauvais diagnostic. Une autre crainte liée à l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, c'est qu'elle n'apprend pas toujours avec des données qui représentent bien tout le monde. Si, par exemple, elle est entraînée avec plus d'informations venant d'hommes plutôt que de femmes, cela peut entraîner des erreurs. C'est pareil avec les différentes couleurs de peau. Si l'IA le dit, est-ce que c'est forcément vrai? Lorsque l'IA donne un résultat, on ne sait pas toujours comment elle y est arrivée. Pour un médecin, prendre en considération une réponse sans savoir clairement comment l'IA l'a obtenue, c'est plutôt risqué. C'est pourquoi l'analyse humaine reste très importante. L'IA s'ajoute à la boîte à outils du personnage de la santé. Et toi, serais-tu rassuré ou inquiet de savoir que ton médecin utilise l'IA?
Begin. Begin.
Lettre à Kim Kardashian. Non, Kim, les astronautes sont déjà allés sur la Lune. un texte de Camille Lopez paru le 15 novembre dans Les As de l'Info. Cher Kim, récemment, vous avez déclaré dans votre émission que les astronautes n'étaient jamais allés sur la Lune. Je vous écris pour vous dire que vous avez tort. You are wrong. Les preuves sont nombreuses. Dans les années 1960, les États-Unis et l'URSS, la Russie d'aujourd'hui, ont dépensé beaucoup d'argent pour être le premier pays à envoyer un astronaute sur la Lune. Ce sont les États-Unis qui ont gagné la course. Le 20 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong est devenu le premier humain à y mettre le pied. La naissance d'une fausse croyance. Mais, en 1976, un livre affirme que l'alunissage n'a jamais eu lieu. L'auteur affirme que tout a été filmé dans un studio de cinéma. Même si cela est faux, cette croyance réapparaît de temps en temps avec les mêmes arguments. Par exemple, vous avez dit que le drapeau américain qui a été planté sur le sol lunaire ne devrait pas flotter puisqu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Mais il ne flotte pas. Il est attaché à un support qui lui donne cette apparence de légèreté. Vous avez aussi dit que l'absence d'étoiles dans les photos prouve qu'il s'agit d'une mise en scène. Mais avez-vous déjà essayé de prendre une photo d'un de vos amis et des étoiles dehors? C'est difficile. C'est une question de luminosité. Quelques preuves. Les preuves du passage des humains sur la Lune sont, elles, très solide. Les astronautes ont ramené sur Terre plus de 300 kilos de roches lunaires. Des scientifiques ont confirmé qu'elles venaient bien de la Lune. Et en 2009, des photos de la Lune prises par une sonde montraient les traces et les débris laissés par les astronautes et leur équipement. La NASA elle-même vous a répondu « Oui, nous sommes déjà allés sur la Lune. » 6 fois. Pour clore le débat, la NASA vous a invité au décollage de la mission Artemis en février 2026, car oui, une nouvelle expédition sur la Lune se prépare. Dites, il n'y aurait pas une petite place pour moi? Sans rancune. Et toi, est-ce que tu crois que les astronautes ne sont jamais allés sur la Lune?
Man on the moon!
Copy it down, Eagle.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Oh, boy.
Thank you.
Un média accuse d'avoir déformé les paroles de Donald Trump. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 18 novembre 2025 dans Les As de l'Info. La BBC au Royaume-Uni est dans la tourmente pour avoir volontairement modifié la vidéo d'un discours de Donald Trump. Ce montage trompeur lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites. Le président américain menace de poursuivre la BBC pour $1 milliard. C'est grave. Je t'explique pourquoi. De quoi est accusée la BBC? La British Broadcasting Corporation, BBC, est le grand média public du Royaume-Uni. C'est l'équivalent de Radio-Canada. Les émissions de télé ou de radio de la BBC sont produites avec l'argent venant des impôts. Le problème? La BBC est accusé d'avoir mis bout à bout des extraits vidéo d'un vieux discours de Donald Trump pour le faire mal paraître. Ce montage a été diffusé à l'automne 2024, juste avant les élections américaines. Dans le montage, on voit Trump prononcer un discours le 6 janvier 2021. Il dit « Nous allons marcher vers le Capitole et je serai avec vous, et nous allons nous battre comme des diables. » Le Capitole, c'est le bâtiment qui abrite le Congrès, là où travaillent les élus américains. Après son discours, le Capitole a été envahi par la foule en colère plus de 2000 partisans de Donald Trump sont entrés de force. Malheureusement, il y a eu 5 morts. Et quand on écoute les propos de Trump dans le montage de la BBC, on a l'impression qu'il a directement provoqué cette attaque. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il a dit. Donald Trump a bien prononcé toutes ses paroles pendant son discours, mais pas une à la suite de l'autre. En fait, il se passe 54 minutes entre deux phrases qui ont été collées. Deux démissions et une menace de poursuite. Le scandale a éclaté le 4 novembre. C'est un ancien journaliste de la BBC qui a écrit une lettre au patron du grand média pour dénoncer la vidéo trompeuse. Selon lui, c'est une faute grave qui nuit à la réputation de la BBC. Lorsque ça s'est su, deux personnes très haut placées à la BBC ont donné leur démission. Le 10 novembre, le grand patron s'est excusé. De son côté, Donald Trump menace de poursuivre la BBC pour 5 milliards de dollars américains. Pourquoi c'est grave? Les médias d'information jouent un rôle très important dans la société. On dit même qu'ils sont le quatrième pouvoir, après le gouvernement, le Parlement et les tribunaux. Les médias informent les citoyens sur ce que font les dirigeants et surveillent s'ils respectent leurs promesses et les lois. Pour jouer ce rôle, ils doivent être honnêtes et fiables. Mais en manipulant les propos de Donald Trump pour lui faire dire quelque chose de pire, la BBC n'a pas été honnête. C'est aussi grave parce que ça affecte la crédibilité de la BBC et le travail de tous les journalistes. Déjà que Donald Trump n'aime pas beaucoup les médias d'information. Il les surnomme les « fake news médias », les médias de fausses nouvelles. Cette grosse erreur de la BBC lui donne une raison de plus pour critiquer la presse. C'est toujours interdit de modifier les paroles de quelqu'un? Non. Quand les journalistes interviewent quelqu'un ou rapportent ses paroles, il arrive qu'ils modifient un peu ce qui a été dit. Ils le font pour clarifier ce que la personne a dit ou pour réduire la longueur de la réponse. L'équipe des As le fait aussi régulièrement, mais on ne doit jamais déformer les paroles des gens qu'on cite. Le sens doit être respecté. C'est une règle très importante en journalisme. Toi, quand tu lis ou que tu entends une information qui te surprend, comment fais-tu pour vérifier si c'est vrai? L'histoire rocambolesque d'une toilette en or. Un texte de Camille Lopez, paru le 20 novembre 2025 dans les As de l'Info. Bonjour, chère As. Je te souhaite une merveilleuse journée mondiale des toilettes. Oui, oui, tu as bien entendu. Le 19 novembre est la journée mondiale des toilettes et c'est même reconnu par l'ONU. Pour souligner cette journée très spéciale, j'ai décidé de te raconter la folle histoire de ce qui est fort probablement la cuvette la plus chère au monde. Cambriolage, plomberie et œuvre d'art, c'est parti. Pourquoi a-t-on besoin d'une journée mondiale des toilettes? Parce qu'avoir accès à un endroit propre, privé et sain, où faire ses besoins, c'est essentiel. Ces endroits nous protègent des maladies et nous permettent de garder notre dignité. C'est pour ça que l'ONU y a consacré une journée. Elle rappelle que dans beaucoup de pays, des gens vivent sans toilettes sécuritaires et que ça doit changer. Une idée en or. Cette toilette très luxueuse a un nom. America, Amérique en anglais. Elle a été créée en 2016 par l'artiste italien Maurizio Cattelan. Elle est faite en or massif, pèse plus de 100 kilos et est complètement fonctionnelle. Ce qui veut dire qu'il est possible de l'utiliser pour faire... Tu me comprends. Cette toilette avait une jumelle, car le sculpteur a créé deux cuvettes identiques. Sa sœur a été installée dans la salle de bain du musée Guggenheim à New York. Plus de 100 000 personnes l'ont utilisée. Mais pourquoi avoir créé une toilette en or? Qu'est-ce que ça signifie? On ne le sait pas vraiment, puisque l'artiste a refusé de s'expliquer. On pourrait peut-être y voir une critique des États-Unis et des personnes très riches qui font des dépenses inutiles alors qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre de Maurizio Cattelan fait parler d'elle. Si je te dis « Batman scotché au mur est vendu pour 8,2 millions de dollars », ça te dit quelque chose? Eh oui, c'était aussi son idée. Décidément, Maurizio aime jouer avec notre vision de ce qu'est l'art. Une toilette qui manque de bol. En 2019, le musée new-yorkais a prêté sa précieuse cuvette à un palais en Angleterre. Elle a été installée dans une des salles de bain et faisait partie d'une exposition. Mais, scandale! Peu de temps après, des cambrioleurs ont volé la toilette à coups de masse. L'opération n'a pris que 5 minutes. Deux d'entre eux ont ensuite été arrêtés et ont écopé de 2 et 4 ans de prison pour leur crime. La cuvette dérobée n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs pensent qu'elle a rapidement été coupée en petits morceaux qui ont été revendus. Ça te rappelle une histoire récente? Qui gagnera le trône d'or? Mais tu te rappelles, je t'avais dit que deux toilettes avaient été créées, et mardi, la toilette survivante a été vendue lors d'une vente aux enchères. Tiens-toi bien. Quelqu'un a payé près de 17 millions de dollars pour l'avoir. Un responsable de la vente a déclaré ceci au journal The New York Times. « Selon moi, Cattelan est l'un des plus grands artistes de notre génération et America est l'une de ses œuvres les plus iconiques. » En tout cas, de mon côté, cette histoire m'en débouche un coin. Et toi, que penses-tu de cette drôle d'œuvre d'art? La trouves-tu drôle? Vulgaire? Démesuré? On attend ta critique. Le mystère du détective du Louvre élucidé. Un texte de Camille Lopez paru le 17 novembre 2025 dans les As de l'Info. Le 19 octobre, tout le monde parlait du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre. Rapidement, une photo mystérieuse s'est mise à circuler sur Internet. On peut y voir, à côté de policiers parisiens, un enquêteur au look très chic. Les questions ont vite fusé. Mais qui est-il? Existe-t-il réellement ou a-t-il été généré par l'intelligence artificielle? On a enfin une réponse. La voici. L'ado au style presque trop beau pour être vrai. Tout est parti d'une photo prise le jour du cambriolage par Thibaut Camus, photographe de l'agence de presse Associated Press. Il a pris la photo alors que les policiers menaient leur enquête dans les environs du musée du Louvre. Dès qu'elle a été publiée, elle a suscité plein de questions. Pourquoi? Parce que le jeune homme à droite a l'air d'un détective tout droit sorti d'un vieux film, et ses vêtements ont inspiré une rumeur tenace. Voici à quoi ressemble l'enquêteur en charge du cambriolage au Louvre. ont déclaré plusieurs internautes. D'autres ont affirmé qu'il n'existait pas et que la photo avait été générée par l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont cru à ces théories qui ne se basaient sur aucune preuve. Alors c'est quoi la vérité? Le mystérieux inconnu existe bel et bien. Le photographe l'a retrouvé. Il s'agit d'un ado français de 15 ans qui s'appelle Pedro Elias Garzón Delvo. Le 19 octobre, sa famille et lui étaient en voyage à Paris et voulaient visiter le Louvre qui était fermé. Pedro s'est donc baladé dans les environs et il s'est par hasard retrouvé devant l'appareil du photographe qui a croqué son portrait. L'ado, qui vient d'un endroit qui s'appelle Rambouillet, près de Paris, ne savait même pas qu'il était devenu viral. C'est une amie qui lui a dit qu'elle l'avait reconnu sur TikTok. Et ce n'est pas un détective venu du passé. Pedro aime juste s'habiller chic. Mais il aime les mystères. Je ne voulais pas dire immédiatement que c'était moi. Avec la photo, il y a un mystère. Il faut le faire durer, a-t-il confié à un journaliste du journal The Guardian. Et toi, quel est ton style vestimentaire préféré? Strike the pose. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.